En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'association Être humain présente depuis mars 2012 différents cycles de conférences sur la conscience, un thème interdisciplinaire de plus en plus débattu aujourd'hui. Après avoir traité de la conscience de l'homme, la conscience qu'a l'homme de sa projection réflexive sur le monde en train de se faire, la conscience chez l'animal sur les états modifiés de conscience ou sur les manifestations et la nature de la conscience, l'association Être humain propose un nouveau cycle de conférences consacré cette fois à la conscience dans son acception celle de la morale. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Jean Béchler dans le cadre de ce cycle de conférences interacadémiques et interdisciplinaires intitulé « Conscience et spiritualité ». Son intervention est suivie d'un échange avec la salle. Retrouvons-le à la tribune.
Le titre que j'ai choisi, je n'avais pas fait attention, c'est « Conscience et spiritualité » et vous allez comprendre pourquoi. Dans un colloque précédent, j'avais donné une communication sur « Qu'est-ce que la conscience ?» et j'avais entre autres soutenu deux points de vue. D'abord que le mot pris tel quel « conscience » est trop vague et ambigu pour un usage utile et efficace. Par contre, deux acceptions plus spécialisées sont admissibles, à savoir conscience morale et conscience de. Alors je voudrais revenir sur ces deux acceptions en ajoutant une troisième en conscience. Et je soutiendrai que ces trois acceptions sont logiquement impliquées dans le concept de liberté, si on définit celle-ci comme d'une part la capacité à faire des choix autonomes droits, et d'autre part, sous la contrainte de la capacité des contraires, et que cet enchaînement logique est démontrable au sens fort du terme en suivant trois lignes d'argumentation elles-mêmes enchaînées, que je commence par résumer, sinon vous risquez de vous y perdre. Premier enchaînement logique, la liberté implique la responsabilité, qui implique la conscience morale, qui implique la rectitude. Deuxièmement, la conscience morale implique la responsabilité, qui implique la conscience de soi, qui implique la destination, qui implique l'autonomie. Et enfin, troisième enchaînement, la destination implique la recherche de l'absolu, qui implique un choix et un engagement en conscience. De telle sorte que si cette démonstration est réussie et si on entend par spiritualité l'engagement conscient sur une voie conduisant à l'absolu, alors spiritualité et conscience composent une dyade conceptuelle et une réalité naturelle. Alors cette thèse massive, si vous voulez, s'inscrit en fait dans une conception précise de la position et du statut de l'espèce humaine dans le réel accessible à la science. En effet, cette dyade conceptuelle, à mon sens, demeure à l'état virtuel tant que deux conditions ne sont pas remplies. Première condition, il faut que le règne vivant ait mis au point et sélectionné une espèce qui bénéficie génétiquement d'un degré tel de liberté que sa nature exige des mises au point culturelles pour s'effectuer. Et deuxièmement, il faut que cette espèce soit équipée d'un dispositif anatomo-physiologique et neuronal assez complexe et finement structuré pour lui rendre possible l'invention culturelle nécessaire à son humanisation. Je ne traiterai pas du tout ces deux questions, qui de toute façon échappent à mes compétences, mais c'est simplement pour vous dire dans quel cadre, si vous voulez, ce que je vais esquisser. En effet, je m'en tiendrai aux lignes de fait de l'argumentation de ces trois enchaînements conceptuels, de manière, si vous voulez, à les préciser et surtout à en tester la plausibilité. Je crois que c'est très facile à suivre, très simple, une fois que l'on a eu compris, et que donc l'abord peut être un peu rugueux. Je commencerai donc par le premier enchaînement, la conscience morale, en partant de la liberté que je mets au cœur, ce n'a rien d'original, de la condition humaine, pardon, de la nature humaine, en entendant par liberté, je l'ai dit, la capacité d'opérer des choix autonomes droits, et d'autre part, la capacité des contraires, c'est-à-dire l'inverse ou le contradictoire des choix autonomes droits. C'est un mot, liberté, si vous avez d'autres définitions de liberté, ça ne me gêne absolument pas. Moi, je repère un ensemble conceptuel et le mot liberté me paraît convenir, il est arbitraire comme tous les mots. Trois questions sont directement et immédiatement posées. Pourquoi choisir ? La réponse est parce que l'espèce doit s'humaniser en inventant son humanité. Nous n'avons pas dans notre génome tout ce qui permet de définir un être humain. Je prends toujours l'exemple le plus simple à comprendre. Nous sommes équipés génétiquement pour parler, mais pas pour parler français. Il faut apprendre à parler français, chinois ou une autre langue dans un milieu de locuteurs de cette langue. Donc, nous naissons virtuellement parlant, mais nous avons à apprendre à parler une langue définie. Pourquoi choisir juste ? La réponse est évidente, parce que la survie en dépend et que c'est en choisissant juste que l'espèce s'accomplit. Et enfin, pourquoi de manière autonome ? Eh bien, parce que l'hétéronomie abolit la liberté et contredit logiquement la non-programmation génétique de l'espèce. Autrement dit, ça forme un ensemble conceptuellement lié et réellement lié. Comment faire naître de là la responsabilité ? Eh bien, de la manière suivante, la réussite de l'humanisation incombe aux représentants de l'espèce, pour la raison évidente que personne ne peut le faire à leur place. Ils sont donc responsables des succès et des échecs de cette humanisation. Elle s'effectue évidemment dans des contextes culturels les plus variés. S'il n'y avait qu'un seul contexte, nous serions programmés, comme nous ne le sommes pas. Eh bien, il y a un nombre indéfini de contextes culturels. Chaque contexte définit des états. Je rejoins ici Madame Del Sol, avec un vocabulaire un peu différent, mais ça revient au même, des états auxquels sont rattachés des devoirs, qui exigent des dispositions acquises, puisque nous ne naissons pas déjà compétents et vertueux, nous devons les acquérir. Autrement dit, chaque acteur a la responsabilité des devoirs qu'il occupe. Quels sont ces devoirs ? Ces devoirs des parents, des enfants, des soldats, des citoyens, des financiers, des chercheurs, des ingénieurs, etc., etc., etc. Le nombre des États ne peut pas être déduit, il ne peut être que constaté et expliqué rétrospectivement ce qui est la tâche des historiens et des sociologues. Le chapeau général pourrait être ici la conscience professionnelle, si vous voulez, qui résume, définit assez bien ce qu'il faut entendre par la responsabilité. Alors, qu'est-ce que la conscience morale dans ce cadre ? Eh bien, la réponse devient évidente. C'est le comportement humain responsable en deux sens. Premier sens, approprié au devoir d'État. Deuxième sens, conscient de son appropriation. Malheureusement, la condition humaine est placée sous le signe de la capacité des contraires et nous savons, et nous pouvons expliquer, que nous avons une tendance très fâcheuse à choisir les mauvais contraires, les contraires négatifs. Cette capacité a pour conséquence que cette conscience morale subit ou peut connaître trois expressions, la bonne conscience, c'est-à-dire le sentiment du devoir accompli, la mauvaise conscience, le remords d'avoir manqué à ses devoirs, et tous les sentiments, enfin toutes les nuances que l'on peut introduire, bien entendu, et enfin la fausse conscience. L'expression a été mise à la mode autrefois par le marxisme, mais on peut la retenir, à savoir les conceptions qui faussent les perceptions justes de la responsabilité. Il reste un dernier point à introduire, à savoir la rectitude, ou la droiture, ou la justesse, c'est-à-dire les critères objectifs qui doivent guider la conscience morale. Il s'agit évidemment du bien, que je définis, mais je n'en dirai pas plus, comme le système et l'architectonique des fins de l'homme, les fins étant définies comme la solution de problèmes de survie et de destination qui se posent nécessairement et inévitablement à une espèce qui n'est pas programmée génétiquement. Autrement dit, dans mon système général, si vous voulez, l'éthique est ce qu'est l'éthologie dans le monde animal, c'est-à-dire un certain nombre de comportements liés qui sont destinés à assurer la survie, tant bien que mal, des individus et des espèces et du vivant en général. Deuxième critère, c'est évidemment le vrai, c'est-à-dire les bonnes réponses aux questions bien posées. Et enfin, troisième critère, l'utile, c'est-à-dire les contributions efficaces à la recherche du vrai et à la poursuite du bien. Je mets tout cela dans le cadre donc de la conscience morale. Comment, à partir de là, faire naître la conscience de soi comme une nécessité, c'est-à-dire une implication de la liberté ? Bien, je crois pouvoir le faire de la manière suivante. Une espèce non programmée, génétiquement, biologiquement, et donc libre, exige de ses représentants qu'ils inventent culturellement leur humanité et l'effectuent dans les incertitudes de leurs histoires particulières. Bon. Or, rien d'humain ne peut être inventé et effectué dans la solitude solipsiste. Nous sommes l'espèce la plus grégaire qui soit. On peut même empiriquement constater que le minimum est de 500 individus pour qu'une société humaine rende possible une humanisation complète dans toutes les dimensions de l'humain et lui assure, sinon la perpétuité, du moins une stabilité suffisante pour qu'elle puisse durer sur un nombre indéfini de générations, entre 500 et 1000 individus. C'est peu, mais c'est suffisant. Bon. Mais la grégarité humaine, elle aussi, n'est que virtuelle. Il faut l'inventer. Il y a donc différentes modalités de cette grégarité. C'est l'objet, la sociologie. Il y a des solutions extrêmement diverses qui vont de la bande, de la tribu, au système des castes indiens, à la nation, etc. De nombreuses manières. La grégarité repose sur la coopération, qui repose sur la confiance, qui repose à son tour sur le pari jugé raisonnable que chacun sera responsable et remplira convenablement ses devoirs d'État. Sinon, c'est la méfiance des représailles et la mauvaise conscience. Chose étonnante, il a fallu attendre ces dernières années pour que des études de laboratoire opérées par des psychologues nous révèle que nous sommes une espèce coopérante et que l'hypothèse, enfin, hobbesienne est fausse. Enfin, ça m'a toujours paru une évidence, non pas Hobbes, mais que ça ne peut pas marcher. Enfin, il suffit d'avoir fait un peu d'histoire pour en être persuadé. Alors, cette opération, ou ce calcul, si vous voulez, ce pari, si vous voulez, exige un dispositif psychique et au-delà biologique, qui permettent de se mettre à la place d'autrui et de le percevoir comme un autre soi-même, capable lui aussi de se mettre à la place du sujet. Bon, on a trouvé les zones de notre cerveau et les neurones ou les groupes de neurones qui, effectivement, rendent cela possible. Autrement dit, la conscience de soi comme d'un autre implique la conscience de l'autre comme un soi-même. Il n'y a pas de coopération humaine possible si ça, cette conscience de soi, je répète, comme un autre et de l'autre comme soi, n'est pas donnée. C'est une condition de possibilité de la coopération humaine. Autrement dit, une espèce équipée d'une nature virtuelle s'actualise par l'entremise culturelle de représentants conscients de leur identité et de leur altérité. De là, on fait naître, logiquement, l'interrogation et la réflexion sur les fins dernières, par l'enchaînement suivant. Dès lors que la conscience de soi et d'autrui, et du reste, si vous voulez, du réel, est donnée, une prise de distance par rapport à ce réel est possible, ce qu'on appelle la réflexion. C'est la conscience d'eux, si vous voulez. Mais cette réflexion conduite par des acteurs responsables de leur sort et fortement disgraciés par leur capacité des contraires ne peut pas éviter de s'étonner, de s'interroger et de poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi le réel est-il comme nous constatons qu'il est ? Pourquoi tous ceux ? Pourquoi nous ? Pourquoi moi ? Ben, tout le monde, quoi ? C'est le début de la science selon Aristote et selon le bon sens également. Le bon sens et Aristote étant pratiquement synonymes. Hein, bon. Or, pourquoi la question « pourquoi » implique logiquement deux classes tout à fait différentes de réponses. Première classe, toutes les réponses qui commencent par « parce que ». Pourquoi ? Parce que. C'est-à-dire tout ce qui prétend expliquer le réel, pourquoi le réel est comme il est. Qui débouche sur deux sous-classes, des explications soit mythiques, dont a parlé Madame Del Sol, je résume, ce matin, soit scientifiques. Tant que la science n'était pas née, c'est-à-dire le premier tiers du XVIIe siècle, il était difficile de trouver autre chose que des explications mythiques, de type très varié, bien entendu, ou tautologiques, enfin la vertu dormitive du pavot, si vous voulez, donc de pseudo-explications. Ce n'est qu'avec, depuis quatre siècles, qu'on est entré dans une ère où on peut espérer obtenir des explications du réel qui tiennent à peu près la route. Et vous avez une deuxième classe de réponses totalement différente où les propositions commencent par « pour » en vue de. Pourquoi « pour » en vue de ? C'est-à-dire les objectifs à poursuivre. Quelles sont les réponses que l'on peut trouver dans cette direction ? Elles ont été trouvées, je dirais, presque depuis toujours. Ce sont d'une part les solutions des problèmes de survie des humains, ce que j'appelle des fins de l'homme, des fins politiques, comment vivre ensemble sans s'entretuer, économiques, comment réunir au meilleur coût sous la contrainte de la rareté des ressources indispensables pour satisfaire des besoins, comment assurer l'efficacité des opérations humaines, on donne la technique, si vous voulez, comment reprogrammer de génération en génération une humanisation particulière développée dans un cercle culturel et social donné, et ainsi de suite. Je distingue une douzaine, 12 très précisément, fins ainsi définies. Et deuxième question, pourquoi faut-il survivre ? Il ne suffit pas de répondre « les fins permettent de survivre », mais pourquoi survivre ? Pourquoi vivre ? Il faut le système où l'architectonique des fins implique, logiquement, une fin dernière qui donne un sens à l'ensemble de la construction. C'est-à-dire la question de la destination de l'être humain, non pas de l'espèce en tant que vivante, si vous voulez, mais de ses représentants en tant que représentants de cette espèce, doivent se poser inévitablement, je ne dis pas chacun, mais dans tous les cercles culturels, quelqu'un, un jour ou l'autre, se pose la question de la destination, quelle est la destination de l'espèce. D'où mon troisième et dernier point. En conscience, sur ce qui donne sens à l'existence humaine, les données empiriques sont abondantes et variées, et se présentent dans deux classes. D'un côté, sous la forme de religions qui ont pour caractéristique première d'être discordantes entre elles, et d'autre part sous la forme de sagesse qui sont caractérisées par une très grande concordance entre elles. Peut-on expliquer cette distribution, si vous voulez, des réponses trouvées par les êtres humains depuis des millénaires, à mon avis, pratiquement depuis le début, mais on n'a pas de témoignages, enfin on n'a pas de documents. Je vous propose une explication, alors c'est une théorie qui m'est personnelle et que j'ai développée ces dernières années dans plusieurs livres, et que je résume, alors là c'est vraiment c'est l'élixir de l'élixir et la quintessence de l'élixir. Je pars du fait d'un constat qui est évident, à savoir que tout passe et tout change. Bon, en termes philosophiques traditionnels, tout est contingent, au sens où rien de ce qui constitue le réel n'a sa raison d'être en lui-même. C'est toujours le résultat de quelque chose qui était donné antérieurement. Si on s'applique, si vous voulez, à ce constat, eh bien, on peut en tirer ce que j'appellerais un syllogisme métaphysique, que je crois impeccable, et qui se présente de la manière suivante, majeur: s'il n'y avait que du contingent, il n'y aurait rien. Puisque rien n'a sa raison d'être en soi-même, s'il n'y avait que du contingent, il n'y aurait rien. Mineur, or, il existe quelque chose. Même si ce n'est qu'une illusion, les illusions existent. D'où la conclusion, donc, du non-contingent existe. Si je décide d'appeler non-contingent l'absolu, l'absolu existe. En résumé, le contingent implique logiquement l'absolu. Bon, vous allez me dire, vous retrouvez une preuve de l'existence de Dieu. Mais non, justement pas. En effet, il y a trois interprétations de l'absolu que l'on peut isoler, que l'on trouve dans la matière historique, c'est-à-dire dans la documentation historique, et que l'on peut fonder en raison métaphysique. Et voici les trois interprétations que je crois pouvoir repérer. Vous avez une première qui définit l'absolu comme l'ensemble en devenir perpétuel de devenants éphémères. C'est la perception de l'absolu qui a été développée d'une manière prioritaire sur l'ère culturelle chinoise. Deuxième possibilité, l'absolu est un être transcendant, personnel, créateur de créatures éphémères, que dans notre tradition nous avons l'habitude d'appeler Dieu. Et enfin, vous avez une troisième interprétation où l'absolu est un immanent inhabitant des devenants éphémères, ce que dans la tradition indienne on appelle l'atman. Ce sont trois définitions radicalement différentes. Trois traditions, si vous voulez, majeures des grandes civilisations, radicalement différentes. Chaque interprétation est cohérente, on peut le démontrer, équiprobable, indécidable et anti-éclectique. Il est impossible d'en trouver une quatrième qui combine les trois. Elles sont irréductibles. Il est sûr qu'une seule est vraie et que les deux autres sont fausses, mais il est impossible de le savoir, tout simplement parce que nous sommes du côté de la contingence, nous ne sommes pas du côté de l'absolu. Autrement dit, c'est au-delà de l'horizon cognitif humain. Je plaide que le devenir, l'interprétation de l'absolu en termes de devenir, conduit à la mise au point de sagesse rigoureusement séculière, dont les exemples les plus parlants, si vous voulez, sont le confucéisme sur l'ère chinoise, les doctrines du dharma en Inde, si vous prenez les lois de Manu, enfin, vous avez un système parfaitement cohérent. La philosophie grecque, dans un certain nombre de ses courants, en particulier Aristote, enfin, l'éthique à Nicomaque, Cicéron, le Déophikis, enfin, on a là sagesses parfaitement construite, parfaitement cohérente, et qui repose pour l'essentiel sur les devoirs d'État, qu'un être humain doit remplir et qui doit remplir son existence. Alors à partir de là, on peut montrer qu'il y a des développements qui vont dans des sens différents, plutôt dans un sens mystique ou hédoniste ou autre, mais je n'entre pas dans ces détails. Et les deux autres absolus donnent lieu à des développements religieux, bien connus, brahmanisme, bouddhisme, judaïsme, christianisme, islam, qui par ailleurs procurent également des justifications des devoirs d'État. D'un côté Dieu le veut, de l'autre le karma. Bon, je caricature, mais pour l'essentiel c'est cela. Ce qui explique que, quelles que soient les cultures, les devoirs d'État sont les mêmes. Je ne connais aucune culture où il soit recommandé aux soldats d'être lâches et de déserter sur le champ de bataille. Je n'en connais aucune qui recommande à la mère de ne pas prendre soin de ses enfants, et ainsi de suite. Il y a l'idée que, comment dire, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, ne porte que sur les mœurs, la moralité, c'est-à-dire sur ce qui se fait et ne se fait pas. Là, bon, il y a une variation. Faut-il porter une cravate quand on vient à un colloque organisé par Madame Tournafond ? Bon, on peut discuter, si vous voulez, ça dépend. Par contre, sur l'éthique, si vous voulez, du bien et du mal, la variabilité entre les sociétés humaines est à peu près imperceptible, sauf que tous les États ne sont pas représentés dans toutes les sociétés. Quelle est l'éthique ou quel est le devoir d'État du banquier ? Vous ne le trouverez pas ça dans des sociétés tribales où il n'y a pas de banquier, si vous voulez. Bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, d'ailleurs. Alors, la spiritualité, c'est l'emprunt d'une voie de l'absolu qui ne peut pas s'effectuer sans un choix en conscience de la voie, non pas par un raisonnement qui est impossible, puisque c'est au-delà de l'horizon cognitif humain, mais par une conversion de tout l'être, si vous voulez, par une adhésion à cette voie qui a été choisie, et deuxièmement, par la pratique en conscience de tous les exercices indispensables au progrès sur la voie, dont peuvent résulter, l'expérience le prouve et le raisonnement le confirme, des états de conscience purs ou presque purs, où l'individu prend une conscience parfaite de sa nature et de sa condition. Ce sont les expériences exceptionnelles et rares, d'un côté des sages, qui ont atteint au degré suprême de la lucidité, de la fermeté et de la sérénité, et de l'autre, des saints et surtout des mystiques qui bénéficient de l'expérience de l'absolu. Les uns et les autres sont parfaitement conscients de leur destination en tant que représentants d'une espèce libre, problématique et disgraciée. Quelle conclusion tirer de cette exposé beaucoup trop rapide, j'en ai conscience, mais je vous ai peut-être rattraper un peu le temps, je tirerai, si j'en avais l'occasion, deux conclusions. L'une gnoséologique, ou épistémologique, plutôt gnoséologique. Tout ce que je viens de dire est vrai ou faux ? Plus probablement faux que vrai. Dans les deux cas, ça n'a pas d'importance. Les arguments rationnels peuvent être avancés pour démontrer que c'est faux ou que c'est vrai. Et par conséquent, des progrès cognitifs sont possibles sur ces questions difficiles, délicates, et à propos desquelles on a coutume de dire qu'on ne peut pas savoir, enfin que, bon, il faut des compromis, il faut tout ça. Non, c'est faux, tout simplement, c'est purement et simplement faux. On a la possibilité d'appliquer une méthode scientifique la plus rigoureuse possible, et la plus conforme à ce qui se fait en biologie ou en physique, sauf qu'il s'agit d'une matière ou d'un objet beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe qu'est le règne humain. et pour étudier le règne humain d'une manière scientifique rationnelle, on ne peut pas faire autrement, c'est une thèse que je soutiens depuis près d'un demi-siècle, introduire la philosophie, la sociologie et l'histoire. La philosophie s'interroge sur de quoi parle-t-on. L'histoire étudie les cas singuliers d'effectuation de l'humain et la sociologie est là pour comparer entre les différents cas afin d'essayer d'en tirer des facteurs. Qu'est-ce qui fait que les Chinois pensent ainsi, les Indiens comme ça et les Européens autrement ? C'est quand même un grand mystère. Je crois que ce n'est pas un mystère, mais une énigme que l'on peut expliquer, si vous voulez, mais c'est extrêmement difficile. Donc, dire que tout cela échappe à la science me paraît tout purement et simplement faux. Voilà. Bon. Deuxième conclusion, et alors là, je nourris des craintes d'être assis à côté de François Gros, parce que c'est une conclusion méthodologique que je me permets de soumettre aux neurophysiologistes, neurologues, neurones, etc. Bon, bien, je suis persuadé qu'en partant du neurone, il est impossible de faire émerger ce que j'ai appelé la conscience morale, la conscience de soi ou la conscience spirituelle. Par contre, le chemin inverse est tout à fait praticable et doit faire émerger à un certain moment le neurone comme condition de possibilité de ces trois expressions de la conscience. Et au-delà, pourquoi ne pas remonter jusqu'aux atomes et aux quarks ? Bon, en cherchant bien, on finira par montrer que ça a un rapport. Alors, les biologistes, enfin les neuros, etc., objecteront que le laboratoire impose probablement de partir du neurone ou du groupe de neurones. On ne peut pas faire autrement. Du simple au complexe. Bon, c'est leur affaire. J'ai déjà assez de soucis, moi, avec les affaires humaines, sans m'occuper des affaires des biologistes. Mais j'aimerais tout de même, parce que ça fait des années que je lis tout de même, ce qui, en particulier, vous savez, l'imagerie cérébrale qui est très à la mode depuis une vingtaine d'années, c'est merveilleux d'ailleurs, mais qui me paraît vicié vraiment à la base par le fait que, il n'y a pas une conception globale ni de la conscience ni du cerveau qui permet d'intégrer ce que l'on découvre en partant du simple vers le complexe, l'inscrire dans un schéma général qui peut être faux. Donc c'est une hypothèse de travail. Et donc, le concept, je crois, de phénomène émergent qui est très à la mode dans vos milieux, ne veut rien dire. À mon avis, c'est une formule purement verbale. Par contre, le concept de condition de possibilité peut être rendu opérationnel, si vous voulez. Et donc, quelles sont les conditions de possibilité biologique neuronale de la conscience dans les trois acceptions que j'ai retenues et que la spiritualité revient. Autrement dit, j'aimerais bien que les etc., partent de la spiritualité, d'une conception de la spiritualité, pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Ça me paraîtrait beaucoup plus utile et efficace. Mais là, je m'aventure et je suis prêt à retirer ce que je viens de dire. Merci.
Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup, cher confrère et non moins ami. En fait, vous avez mis le doigt dans la dernière partie de votre propos sur ce qui fonde, au fond, les réunions auxquelles nous participons et auxquelles le public nous fait l'honneur également de participer. C'est-à-dire, en fait, tout de même une sorte de questionnement qui bascule entre les tentatives d'explication scientifique et en même temps la démarche, disons, spiritualiste que vous avez d'ailleurs évoquée avec beaucoup de talent et de précision, je dois dire aussi. Mais j'ai tout de même noté que dans votre exposé, vous avez vous-même utilisé parfois une terminologie scientifique. C'est vous-même qui avez utilisé la terminologie de neurone et qui avez parlé de génétique, en quelque sorte de patrimoine génétique, etc. Donc le problème existe. Et je pense qu'on ne peut pas, à mon sens, et c'est là où je ne partage pas tout à fait votre opinion, on ne peut pas évacuer la démarche de certains scientifiques qui tentent précisément de raccorder l'explication, si j'ose dire, mécanistique, dans le sens peut-être un peu rapide du terme, avec des comportements beaucoup plus intégrés. Mais ne prenez tout de même pas les scientifiques pour uniquement des plombiers zingueurs. Ce sont des gens qui ont également un cerveau et qui, comme vous, essayent de comprendre. Alors, vous partez de la spiritualité pour aller peut-être expliquer justement des choses qui émanent du corps humain, de son cerveau, etc. Les scientifiques essayent de partir du corps humain et du cerveau pour essayer d'expliquer certains concepts de spiritualité, mais ils ne rejettent pas du tout la spiritualité.
Non, mais...
Et je pense que Pierre Buzet a beaucoup plus de choses.
Oui, non. Oui. Je n'ai pas parlé de spiritualisme. J'élimine tout isme de ma pensée, de mon vocabulaire. Je parlais de spiritualité, ce qui est tout à fait différent. Je suis d'accord avec vous, si vous voulez, mais je ne suis pas tout à fait sûr que vous ayez parfaitement compris ce que je voulais dire. Je n'élimine rigoureusement rien. Au contraire, nous sommes des animaux, enfin, et à ce titre, mais nous sommes des animaux d'un type particulier, parce que... Et donc, nous sommes d'accord, voilà, c'est l'essentiel.
Non, mais il y a peut-être des questions, c'est ça qui est...
Bon, je vous en prie, monsieur. Monsieur Bourgeois.
Merci. Dites.
Bernard Bourgeois, oui. Je pense que ce que vous avez dit est plus sûrement vrai que faux. Bon, j'ai retrouvé votre capacité de métaphysicien hors pair d'à partir un moment du tout, un moment privilégié, vous reconstituez le tout.
Ça marche pas.
Ma question est la suivante.
Le plus simple, c'est de venir ici.
Oui.
Je pense qu'il marche, celui-là.
Il devrait marcher.
Ma question est la suivante. Après vous avoir donné mon accord plénier, je vous pose une question. Vous partez de ce fait ou de cette expérience de départ, le choix libre, droit. C'est sur la signification de ce terme droit que je m'interroge. La rectitude. Vous avez dit dans le cours de votre présentation, vous avez parlé également de justesse et de justice. Vous aviez au tout début, en analysant la signification de ce terme droit, parlé de survie, condition de survie, ou de destination. Condition de survie ou de justesse, ça consiste dans l'adéquation au milieu réel dans lequel on vit. On peut mal choisir, on échouera à transformer le réel ou à le maîtriser, ou on peut bien choisir. Mais si vous parlez de destination, vous allez au-delà la justesse et l'adéquation avec le réel. La justice, c'est l'adéquation avec ce qui est un réel d'un tout autre ordre que celui qui est constitué par le réel du monde physique dans lequel on agit, c'est un réel, disons, idéal. Ma question est la suivante. Est-ce que vous établissez ou non, à l'intérieur de l'expérience de la liberté ou de la conscience libre dont vous avez parlé, une différence tel que ça pourrait constituer un événement entre la justesse, l'adaptation au réel, si j'ose dire réel, et la justice, c'est-à-dire l'adaptation à un réel idéal. La différence entre la nécessité et l'obligation. Il y a quelqu'un, il y a un grand précédent, et je pense que vous méritez d'être situé par rapport à lui. Vous avez quelqu'un qui a dit que l'on pouvait déduire d'une expérience humaine, il a parfaitement caractérisé, la totalité de la métaphysique ou des grands choix métaphysiques. Ce fut Kant, mais qui liait l'expérience de la liberté à la rencontre ou à la présence dans la conscience humaine de la loi morale. Il y a deux choses qui me remplissent d'admiration, la loi morale au fond de mon cœur et le spectacle de la constellation terrestre. L'astronomie ou la géographie et la moralité. Vous savez que Kant a enseigné toute sa vie deux disciplines,
le ciel étoilé,
la philosophie et la géographie. Alors, vous me semblez lier ce que Kant distinguait, les deux notions du droit. Je voulais savoir si vous considérez qu'il y a une différence et une innovation à laquelle vous serez prêt à souscrire entre la liberté comme libre choix du droit au sens de ce qui est juste, adéquat, réel, exact, et la liberté comme expérience de la justice, à savoir de ce réel qui s'exprime à travers non plus la nécessité, mais l'obligation. Mais en tout cas, je vous redis mon admiration, une fois de plus, pour la maîtrise avec laquelle vous avez noué, d'une façon tout à fait rigoureuse, tous les éléments de cette vision du monde que vous avez présentée. Voilà ma question.
Oui, bon, je ne peux pas répondre, évidemment, parce que, bon, pour diverses raisons, vous allez aller... comment dire, à la racine des choses, je ne suis pas particulier. Si, je suis kantien, hein, au sens où il m'a persuadé que nous ne pouvions connaître que ce que nous construisions comme objet de connaissance. Moi, j'y introduirai le progrès, tout de même, du savoir. Mais, enfin, peu importe. Et donc, la partie de Kant, que je n'ai pas lu depuis 50 ans, hein, je dois le connaître, donc la critique du jugement, etc., mais beaucoup plus étrangère. Cela dit, la beauté de la nature, l'admiration de la beauté, si vous êtes du côté de l'absolu créateur, je crois qu'on peut démontrer le devoir premier de la créature est de dire merci et d'admirer la création. Que la création est une gigantesque prière qui illustre la grandeur du créateur. Alors du côté du devenir, c'est pareil. Enfin, la tradition chinoise, est une vision cosmique, si vous voulez, qui conjoint le macrocosme et le microcosme. Et donc tout ça, c'est une illustration des merveilles du monde. Enfin, je simplifie, mais enfin, c'est tout de même ça. Alors c'est du côté indien et du côté de l'Atman, c'est plus difficile, puisque chacun étant déjà l'absolu, il a pour devoir de se débarrasser de la gangue qui l'empêche de le savoir et de l'être réellement. Et donc, tout c'est la Maya, enfin, il n'y a que des illusions. Difficile, enfin, d'admirer beaucoup une illusion. Enfin, cela dit, en y regardant bien, on devrait pouvoir s'en tirer, si vous voulez. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir, je n'ai pas répondu à votre question. Sur un point, vous avez introduit le mot « justice ». Ça, c'est tout de même tout à fait différent. Enfin, ça, je prends la justice au sens d'Aristote, si vous voulez, et de saint Thomas d'Aquin. Enfin, c'est ce qui règle, si vous voulez, les rapports avec autrui, enfin. Avec autrui, dont fait partie Dieu, dont font partie les dieux, et ainsi de suite. Donc je ne vois pas très bien en quoi la justice est introduite, doit être introduite dans cette configuration conceptuelle. Justesse, oui. Ce que je soutiens, c'est que l'espèce humaine est équipée de tous les dispositifs et les procédures nécessaires et suffisantes pour réussir à repérer d'une manière raisonnablement sûre ce qui est juste, si vous voulez, en matière humaine. Et pas seulement à propos du vivant ou de l'inanimé. Je pense pas, je sais que la méthode de la science est applicable aux affaires humaines. Et qu'il suffit de distinguer la science et les sciences pour résoudre, me semble-t-il, ou renvoyer aux oubliettes ce débat. Enfin, ce n'est pas un débat, enfin, ce sont ces affirmations qui méritent prodigieusement entre les sciences dures, et alors on n'ose pas dire les sciences molles, parce que c'est tout de même un peu violent, mais donc les non-sciences, ce qui me paraît tout simplement faux. Simplement, les différents départements du réel ne sont pas écrits dans la même langue, si vous voulez. Ce qui se lit avec le langage mathématique ne peut pas être lu avec le langage mathématique dans le règne humain, sauf pour des réalités généralement insignifiantes. Bon.
Merci. Quoi donc?
On passe directement à la suite.
Je dirai un mot tout à l'heure.
Puisqu'il intervient tout à l'heure. Très bien. Peut-être avant d'ouvrir le point suivant, qui est la table ronde, est-ce qu'il y a une autre question urgente? Oui, là-bas.
Franck Renucci.
Non, mais attendez.
Peut-être le mieux est-il que vous veniez ici, parce que l'acoustique est très mauvaise. Oui.
Et pourquoi les micros?
Je sais pas ce qui se passe.
Donc, Franck Renucci. Donc, je vais vous poser une question qui rejoint un petit peu les propos du président tout à l'heure. Donc, il va avoir une relation avec les nouvelles technologies et la notion de données qui actuellement ne différencie plus. On parle par exemple de NBIC, l'artificiel du vivant. Et donc aussi des systèmes qu'on appelle systèmes de recommandation, c'est-à-dire ce sont des systèmes prédictifs qui, à partir de ces données, il y a tout un travail fait, qui sont là pour anticiper un petit peu les choses et donc de permettre, et donc j'en viens à votre propos, de permettre d'une certaine manière de réguler, mais aussi, d'après moi, d'empêcher que l'événement se produise. Donc là, je parle de contingence. Et vous avez souvent insisté sur l'humain comme un être qui n'était pas programmé. Or, il me semble, c'est une question, qu'aujourd'hui, à travers les données sous la forme big data, c'est-à-dire tout ce qui a été entassé depuis des années, que des systèmes de recommandation qui sont mis en place, c'est-à-dire des logiciels qui sont là pour anticiper l'autre, on cherche d'une certaine manière à une sorte de programmation, non pas programmer l'humain, mais faire que l'humain, et on le voit à travers des propositions qui sont aujourd'hui celles qui sont par exemple écrites par Jean-Michel Beignet dans Le Post-Humain, que l'humain ressemble soit l'image de cette machine-là, et on voit les discussions qui ont lieu autour du DSM-5 récemment, c'est-à-dire la sortie du DSM-5 avec les études statistiques telles qu'elles ont été mises en place depuis 10 ans, qui visaient à quoi, en fait, à essayer de démontrer d'une certaine manière comment, eh bien, le psychisme où certains problèmes pouvaient être liés à des lésions, il y a un problème au niveau du DSM-5. Et donc, pour en revenir précisément, c'est donc les données, système de recommandation, l'être non programmé, qu'on pourrait faire tendre aujourd'hui, et donc en creux, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est aussi de la dimension par rapport à l'absolu et à la contingence qui sont liées à tout ça.
Vaste question, et vous êtes beaucoup plus savant que moi, manifestement. Si vous voulez, la non-programmation de l'espèce humaine, tout simplement, il n'y aurait pas d'histoires humaines si nous étions génétiquement programmés. Il n'y a pas d'histoire des harengs. Enfin, bon, il y a des histoires de l'espèce dans l'histoire du vivant, mais il n'y a pas des... Bon, c'est aussi simple que... Enfin, aussi simple, c'est aussi fondamental que cela. Alors... Si je vous ai bien compris, on est en train, l'espèce humaine est en train de mettre au point, enfin, des appareils, des appareillages et des logiciels qui permettent de réduire, si vous voulez, de manière drastique la variabilité et la contingence, si vous voulez, de telle manière que l'humain puisse... comment dire, dans une certaine mesure, se programmer lui-même. Enfin, je crois que ça, c'est... Alors, que Madame Del Sol parlerait de mythe, c'est le mythe de la machine, si vous voulez, qui peut comment dire, avoir deux interprétations, soit le mythe, soit une réalité. Si les humains réussissent à mettre au point une machine qui soit aussi complexe qu'un être humain, eh bien, elle se comportera comme un être humain. Et donc, il y aura des histoires, des machines qui auront à inventer, enfin, si vous voulez, tout cela, ce sont des projections sur l'avenir que je ne connais pas et qui me paraissent, enfin, hautement, problématiques. Enfin, je crois que ce sont un peu des délires technocratiques, enfin. Même si, bien entendu, c'est vous qui avez cité là, enfin, des ordinateurs qui font 10 puissance 18 opérations à la seconde, c'est ça? Bon, ben, ça sera plus efficace qu'à 10 puissance 15 ou à 10 puissance 3. Donc, ça permettra d'avoir des images plus précises, en fait, du cerveau, en fait, où on a besoin probablement de ce genre de choses. Il y a une troisième... Tout cela, j'allais dire, ne me concerne pas tellement. Par contre, ce qui me concerne, je me dis en tant que chercheur appliqué au règne humain, ce sont les terreurs, si vous voulez. Depuis longtemps, j'aimerais, mais je n'aurai plus le temps, c'est trop tard, me lancer dans une étude sur les terreurs. Vous savez, les terreurs nucléaires, démographiques, écologiques, etc., technocratiques. Pourquoi éprouvons-nous le besoin de nous faire peur, si vous voulez? Il y a un rapport très vraisemblablement avec le roman policier, par exemple, le roman noir, début du 19e siècle. J'ai pas de réponse, mais ça m'intéresse. Je ne suis jamais sensible aux terreurs, qui me paraissent toujours très, très largement exagérées, même si l'histoire humaine prouve que ça tourne souvent très, très mal, mais pas pour ces raisons-là. Pour des raisons beaucoup plus simples, d'idéologie, de pouvoir, de totalitarisme, de sottise, tout simplement. Il ne faut jamais oublier que ce dont on a parlé ce matin, Madame Del Sol en particulier, des extravagances contemporaines, il faut toujours partir de la conviction et du constat que ce sont des imbéciles et des brutes. Voilà. Si vous lisez Hitler, Lénine et compagnie, c'est toujours stupide, si vous voulez, et les conclusions qui sortiraient sont criminelles. Et à partir de là, ma foi, c'est non pas plus facile à gérer, mais je veux dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec les terreurs imaginaires de nos intellectuels.
Vous venez d'entendre la communication de Jean Béchler, intitulée « Conscience et spiritualité », dans le cadre du cycle de conférences de l'association Être humain, consacrée à la conscience morale en mai 2013. Une retransmission de Canal Académie.